Et donc, nous passons donc au dernier intervenant de cette première partie de l'après-midi, qui est le révérend père Jean-Robert Amogat, que j'ai un énorme plaisir à accueillir ici à cette table pour énormément de raisons, que je ne dirai pas toutes, mais qui est un, là aussi, alors nous ne sommes plus dans l'ordre des disciples de Marc Fumaroli, mais dans l'ordre des proches et des amis, me semble-t-il. Tout à l'heure, il était rappelé que Jean-Robert Amogat avait prononcé l'homélie à Saint-Germain-des-Prés lors des obsèques de Marc Fumaroli. Présente guère Jean-Robert Amogat, qui est membre de l'Académie d'inscription et belles-lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste des idées religieuses de l'âge classique, et qui partage, alors c'était peut-être moins connu et plus secret, qui partage avec Marc Fumaroli et avec moi même, donc ça fait partie des plaisirs, des coïncidences, voilà, puisque je n'étais pas prévu à cette table, mais c'est la providence existe, c'en est bien la preuve, qui partage avec Marc Fumaroli et moi-même le privilège d'être marseillais et ancien élève du lycée Thiers. Et voilà, donc j'ai, entre camarades, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à inviter Jean-Robert Amogat à présenter son intervention, et donc à ne pas se taire, même si son intervention s'intitule « L'art de se taire ».
Ça marche pas, hein ? Très bien, merci beaucoup. L'art de se taire, j'ai d'autant moins de scrupules à emprunter à l'abbé Dinoir le titre de cette communication que lui-même, en 1771, avait plagié le texte publié en 1696 par l'abbé Morvan de Bellegarde. Un abbé plagie le titre d'un autre abbé qui a plagié le titre d'un autre abbé. Alors, une grande voix s'est tue. Et c'est en hommage à ce silence de Marc qui nous parle tant que je voudrais évoquer ce soir une éloquence bien particulière, l'art de se taire. Dans sa somme sur la rhétorique et l'âge classique, Marc n'a pas manqué, en passant, de relever cette forme particulière de l'éloquence, l'eloquentia silenzi. Et l'on sait combien il a développé le thème de la peinture, comme muta eloquentia, et Frédéric Cousignet nous en parlera demain. Alors, je laisse de côté l'expression silencieuse des arts plastiques, pour ne parler ici que du silence verbal. Et cette communication se propose modestement d'être une longue note de bas de page aux travaux de notre éminent ami. Les verbes latins « tacere » et « silere »,« sigan » et « siopan » en grec, ne sont pas tout à fait synonymes. Le premier, « tacere » signifie simplement « l'arrêt » ou « l'absence de la parole ». Le second a un sens plus profond, « ne pas parler de ceci ou de cela ». Autrement dit, le tacet comme notation musicale, qui est l'absence de l'instrument, on ne joue pas de l'instrument, tacet, et le silet episcopus de la liturgie, je vais y venir dans un très court moment. Le dictionnaire étymologique d'Ernoux Meillet nous apprend que, je cite, « d'après des emplois anciens conservés dans la poésie, silere a désigné à l'origine moins le silence que la tranquillité, l'absence de mouvement et de bruit, donnant l'exemple chez Columel, « dies silence a ventis », un jour sans vent. Et il est conservé dans la rubrique que vous avez ici, de l'ordination épiscopale, presbytérale et diaconale, la liturgie latine, « silet episcopus » est-il prévu lors de l'imposition des mains. Ce n'est donc pas l'absence de parole, c'est l'absence de parole dans une action. Il y a une action, silet episcopus, avec la blague classique de sacristie, de l'évêque ignorant le latin, ça arrive, le cérémoniaire, et il se met à parler, le cérémoniaire lui désigne silet episcopus, et l'évêque dit, je l'ai déjà dit. Bon. Le substantif silencio, alors je laisse de côté le substantif taciturnitas, qui entraînerait à d'autres développements. Silentium hérite de cette double acception. Il peut être l'absence de parole, mais il peut aussi signifier d'autant plus de choses que le sens en est laissé au jugement des auditeurs. Alors, ma communication a quatre parties. La première, le prix du silence. La seconde, a pu développer l'éloquence du silence. La troisième, le silence des dieux. Et la quatrième, le silence comme anti-Babel. Alors, la parole est d'argent et le silence est d'or. Alors, quelles sont les raisons de ce prix du silence ? D'abord, le fait que celui qui se tait pour ne pas répondre à une question, par exemple, exerce un pouvoir plus grand que celui qui répond. Les évangélistes rapportent que devant Pilate, qui a le pouvoir de le faire mourir, Jésus observe le silence. Et Plutarque rapporte la réponse du roi de Sparte, Agis, à l'ambassadeur d'Abder, qui lui avait tenu un long discours. Et alors, quelle réponse dois-je apporter à mes concitoyens ? Le roi répond, « Tu leur diras que je t'ai laissé dire tout ce que tu as voulu, et tant que tu l'as voulu, et que je t'ai toujours écouté sans jamais dire un mot. » Le silence n'est pas en effet seulement l'absence embarrassée de la parole. Il est aussi la volonté de se taire. Ignace d'Antioche, IIe siècle, pour faire aux fidèles de Philadelphie, l'actuel Amman en Jordanie, l'éloge de leur jeune épiscope, explique qu'il est frappé de sa bonté. Et comme le traduit le père Caussin, « Par son silence, il peut plus que tant de vains discoureurs. » C'est ce sage conseil que le président du Vert donne à l'orateur. « Pour ce que c'est la parole qui anime toutes nos convenances, nous devons bien prendre garde à la régler et à la modérer. Le meilleur précepte que nous lui puissions donner, c'est le silence. » Savoir se taire est un grand avantage à bien parler. Bien dire et parler beaucoup n'est pas le fait d'un même ouvrier. Le silence est le père du discours et la fontaine de la raison. J'ai un peu honte de parler dans cet amphithéâtre qui entend tant de paroles. Et Guillaume Duvert explique que si pour bien en viser, on ferme un œil et on cligne de l'autre, c'est parce que les sens jetés dehors s'affaiblissent. Et il conclut que l'esprit bavard perd de sa force. Au contraire, dit-il, retenu, il se recueille, se renforce et se remplit de prudence et de sagesse. Alors, comment cette éloquence se met-elle en œuvre ? Le grand polymathe Juan Caramuel Lobkowicz, que nous rencontrerons à plusieurs reprises dans cet exposé, explique, alors 1606-1682, explique bien que qui veut faire de la rhétorique doit apprendre à se taire. L'éloquence du silence, silenci eloquentia. Ce bavard impénitent, ce polygraphe logoréique, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de Caramuel, définit l'elocutio silenci comme un art nouveau, la sigologia. Deuxième partie, je vais donc après Caramuel et avec lui, tenter de montrer qu'il existe bien une eloquentia silencii qui remplit toutes les conditions pour relever de la rhétorique. Inventio, dispositio, actio, elocutio et memoria. L'inventio est commune à tout discours, avec cependant une particularité dans notre cas, il n'est pas besoin d'avoir quelque chose à dire pour se taire. Le proverbe « il ne dit rien, mais n'en pense pas moins », je l'ai souvent retourné, « il ne dit rien, mais n'en pense pas davantage », en parlant de collègues, bien entendu. Nous ne retiendrons que l'hypothèse d'avoir quelque chose à dire, pour ne pas être comme le muet du psaume 17, « non habens inore suo redarcutiones ». Deuxièmement, la disposition. L'éloquence du silence est particulièrement riche. D'abord, elle dispose d'un trope puissant, l'aposiopèse, opticentia, un silence qui en dit long. Alors, il y a l'exemple classique, trivial, le quos ego de Neptune pour menacer les vents désobéissants. Bon, je ne vais pas le prendre, je ne le cite pas. Je préfère une citation plus intelligente de la première partie du Henri IV de Shakespeare. Henry Percy Jr., surnommé Hotspur, est mortellement blessé par le prince de Galles, le futur Henri V. Et ses dernières paroles restent inachevées. « Percy, dit-il, s'adressant à lui-même, Percy, tu es poussière et nourriture pour... » Et Henry prince de Galles conclut « For the worms, pour les vers, brave Percy ». C'est un procédé dramatique que Shakespeare, en bon dramaturge, affectionne. Je vous passe les nombreux exemples que je pourrais donner. Dans son court essai satirique, Peribatus, or the art of thinking in poetry, thinking, sombrer, et non pas thinking, thinking, sombrer, the art of thinking in poetry, Alexander Pope raye l'usage de l'aposiopèse. C'est, dit-il, une excellente figure pour les ignorants. Par exemple, que dirais-je si on n'a rien à dire, ou je ne peux plus, lorsqu'en réalité on ne peut pas davantage. À défaut de la voix, la posture du corps permet l'expression, comme le rapporte Ovid dans l'Ars Amatoria, sepe tacens vocem verbaque vultus habet. Souvent, en taisant la voix, le visage parle, porte des paroles. Mais la disposition du silence, dans cette disposition, une fonction particulière revient aux mains, dont Mersenne écrit qu'elles sont, je cite, « un instrument particulier de la nature rationnelle pour exprimer les notions de l'âme ». Je suis méridional, le professeur Marx l'a rappelé. Dans ses Romanes et Dissertationes, Agostino Mascardi, un auteur que Marx affectionnait, dénonce la chiromancie, tout en se livrant un éloge des mains qu'il nomme, après Aristote, « organum organorum ». Dans l'Apologie de Raymond Chabonde, Montaigne énumère à foison la gestuelle des mains, de la tête, des sourcils, des épaules. Il n'est mouvement qui ne parle et un langage intelligible sans discipline, enseignement, et un langage public. Alors cette même exubérance se retrouve chez le père de Cressol, et je ne vais pas le traduire, vous allez vite comprendre pourquoi. Es manum comixio concertio conpectinatio agitatio commutatio complosio deiectio elactio iactatio adduxio compressio dilatatio aliquem modi in humana vita consueti. Comprenez que j'ai préféré ne pas traduire. Le langage des mains fait l'objet de traités particuliers dont la Chirologia de Caramuel est le plus achevé. Caramuel a traité, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas, voilà. Caramuel a traité de la rhétorique du silence à deux endroits du Trismegistus Theologicus, imprimé à Vigevano, dans sa ville épiscopale, en 1679. Dans le premier volume, Polumneia, il détaille toutes les espèces d'éloquence non vocale. La comologia, par les cheveux, j'ai un peu de mal, moi. L'ophtalmologie par les yeux, la chromatologie par les couleurs, la rhinologie par le nez, mais aussi l'homologie par les épaules, la braconologie, la pecuiaiologie par les coudes, puis la chirologie, et enfin, descendant le long du corps, j'épargne les détails, jusqu'à la podologie. Il est encore question de cet usage particulier dans le deuxième volume intitulé Sigalion Latine Harpocrates. Mais le comble de la chaironomia s'applique à la déclamation. Après la grammaire et le lexique de la chaironomia, Caramuel aborde dans la section 5 la rhétorique. Il part d'un texte fameux de Cicéron, souvent cité, dit-il, et mal compris. Zénon, dit Cicéron dans le De Finibus, a dit que tout ce qui regarde l'art de la parole est distribué en deux parties, la rhétorique, qui comparait à la paume, et la dialectique, qui est le point fermé. Caramuel en tire bien sûr la conclusion. La chirologia doit nécessairement être pratiquée par tout bon orateur, car elle permet de dire, sans parler, bien des choses. Ainsi, dit-il, en tendant l'index et l'annulaire et en abaissant le majeur, on figure les oreilles d'un âne. Mais, dit-il, ceci est équivoque et peut désigner aussi les cornes du mari trompé. Ce qui est différent, du reste, du digitus impudicus, excusez-moi de ne pas le faire, ou catapugon. Dans les nuées d'Aristophane, Socrate essaie d'inculquer quelques notions de poésie à l'inculte Strepsiade que le papa lui envoyait pour lui apprendre quelques petites choses. « Boulomenos matein legen, boulomenos matein legen, je veux apprendre à parler », dit le jeune homme. Alors Socrate le questionne, « Tu connais un peu la métrique ?»« Oh oui, oui, dit-il, le dactyle, je connais !» Dans le dialogue de la danse, Lucien parle d'un danseur du temps de Néron qui, pour convaincre Démétrius le cynique qui condamnait son art, je cite, « fit taire les instruments, les flûtes, le cœur même, et dansa tout seul les amours de Mars et de Vénus, le soleil révélant l'intrigue, le piège de Vulcain qui prend les deux amants dans ses filets, Vénus toute honteuse, Mars ne pouvant se défendre de craindre et de supplier, enfin les moindres détails de cette histoire. » Démétrius fut convaincu dans cette danse silencieuse et s'écria « J'entends ce que tu fais, danseur, je ne le vois pas seulement, mais il me semble que tu parles avec tes mains. » Il convient de faire mention ici, au moins brièvement, de la manus oculata, la main dotée d'un œil ou de plusieurs yeux, dont Valdemar d'Eonna, il y a plus de 30 ans, a énuméré les liens historiques et littéraires principaux. Depuis l'Asinaria de Plaute, « Nos mains ont des yeux, elles voient ce qu'elles croient », dit celui qui tend la main pour avoir de l'argent. La main dotée d'un œil va traverser les siècles et fleurir dans l'emblématique de la Renaissance. Elle est souvent entourée au poignet, vous voyez, d'une fleur, le pulio, menta pulegium chez Linné, qui a des vertus de tempérance. De savantes études remontent à un récit de Plutarque dans le De Garrulitate. Héraclite, interrogé sur les moyens de ramener la concorde dans la cité, ne répond rien. Il monte à la tribune et se contente, en silence, de remplir un verre d'eau, d'y verser un peu de farine, d'agiter avec du pulio, de le boire, et il descend de la tribune. Et tout le monde a compris. Bref, cet épisode traverse toute l'histoire. Je ne vais pas le commenter, il a donné lieu à de très longs commentaires, mais il montre l'efficacité du silence. L'action. La restriction mentale, un élément particulier de l'éloquence du silence, consiste dans la restriction mentale. Je dissimule en parlant ce que je dis. C'est une perversion du silence, puisque la parole va me permettre de taire, ou peut-être même de transmettre sur un mode subliminal ce que j'ai à dire. Mais le procédé est moins efficace que le silence tout court, car dès que je parle, je me dévoile, même lorsque je cache ma pensée. Ainsi en est-il de Junon, un exemple relevé par le père Cossin, qui cite le discours hypocrite au sens étymologique que celle-ci tient à Vénus pour pousser Aînée à s'unir avec Didon. « Quin potius pacem aeternam pactosque humeneos exercemus » concluant plutôt une paix définitive et des noces officielles. Mais Vénus, sensit enim simulatamente locutam, ses paroles dissimulaient son dessein. Et lisant le père de Cressol, Marc Maroli a de très belles pages sur la tacita significatio des héros et des martyrs. Épiphanie silencieuse du logos, écrit-il, l'effet de leur actio est sublime. L'élocutio. Quand j'ai préparé cette communication, il m'est paru difficile de trouver de l'élocutio dans cette éloquence du silence. Pourtant, en un premier temps, Mersenne m'a fourni un premier exemple. Lorsqu'il s'est interrogé pour savoir s'il était convenable que les chanteurs puissent accompagner leur voix du mouvement du corps, cela lui semble non seulement possible, mais nécessaire pour la perfection de l'art. Mais surtout, j'ai trouvé un admirable exemple dans Rabelais, lorsque Panurge consulte pour son mariage et le sage Pantagruel lui conseille de s'adresser à un muet. Usons de cette manière, et par signe sans parler, conseil prenez de quelques mus. Vous faut choisir un mu sourd de nature, afin que par ses gestes et signes, vous soyez naïvement prophétique, non saint, fardé, ne affecté. Alors, entre en scène, Nas de Cabre, qui est sourd et muet. Alors, je n'insisterai pas sur le long dialogue de sourd-muet entre Nas de Cabre et Panurge, où les gestes parfois incongrus tiennent lieu de discours. Je ne citerai que la demande de Panurge, sans faire les gestes, il y a des dames dans la salle. Il bêla assez longuement, et en bêlant faisait hors la bouche, avec le pouce de la main dextre, la figure de la lettre grecque dite « tau » par fréquente réitération. Puis leva les yeux au ciel et les tournoyait en la tête comme une chèvre qui avorte. Toussait, ce faisant, et profondément soupirait. Cela fait montrer le défaut de sa braguette. Puis, sous sa chemise, prit son pistolandier à plein poing et le faisait mélodieusement cliquer entre ses cuisses. Se inclina, fléchissant le genou gauche et resta tenant ses deux bras sur la poitrine, lassés l'un sur l'autre. La longue réponse de Nage de Cabre, que je vous épargne, est interprétée par Pantagruel un élément après l'autre. Vous serez marié, habité, et serez bien avant de fête. Votre mariage sera infauste et malheureux. Et il conclut, si les signes vous fâchent, oh, quand vous fâcheront les choses signifiées. Touvré à Touvré consonne, le mut prétend et dénote que serait marié, cocu, battu et dérobé. La mémoria, l'art de la mémoire, on sait par les travaux de Lina Bolson et en particulier qu'elle est liée au lieu et partie du discours. La mémoire locale s'exerce le plus simplement, selon la méthode du prédicateur calabrais, le franciscain Girolamo Marafiotti, sur les phalanges des mains. C'est de la sorte que tout un discours est disposé sur les quelques dizaines de phalanges, recto et verso, des 10 doigts de la main. Une application particulière est faite, donc je ne reviens pas sur la main de Marafiotti, Lina Bolson a écrit des choses merveilleuses là-dessus. Mais je viens sur un autre exemple, c'est la musica muta, la musique muette. Les auteurs sont prolixes pour en expliquer les deux sortes. La première est un aide-mémoire, la musica musicalis, ou main guidonienne. Les tons sont placés sur la main en une série continue sur les jointures et les phalanges. La main guidonienne sert ainsi à apprendre les mélodies. Le maître montra sur sa main gauche ouverte l'emplacement des notes à chanter. Et ce dernier procédé, qui a été en usage jusqu'à la fin du XVIe siècle, a été repris avec diverses variantes par plusieurs méthodes d'enseignement musical sous le nom générique de phononymie. La seconde, qui mérite mieux son épithète, est rapportée par de nombreux auteurs et se rapproche de la pantomime. Dans son admirable inventaire des choses perdues, Guido Pancirolli consacre un chapitre à la musica muta, largement développée par son continuateur Heinrich Zalmuth. Je cite dans la traduction de Pierre Delanoux, Lyon, 1617. Les Grecs avaient une autre espèce de musique qu'ils appelaient muette, à cause qu'elle s'exerçait par le murmure et le bruit de l'eau et du mouvement des mains, de la vue et des pieds, laquelle récréait extrêmement et admirablement le peuple, est-ce intermède des scènes et des actes. Ceux qui en faisaient profession s'appelaient mimi et pantomimi, comme on peut apprendre de plusieurs auteurs, et spécialement de Cassiodore, qui en son premier livre, écrivant à Albinus, dit enfin que les anciens appelaient cette partie de la musique muette, laquelle, par certains gestes, faisait entendre ce que la langue ni l'écriture n'eussent mieux pu exprimer. Cet art s'est évanoui en fumée, et on n'en parle plus. Et comme Pancirolli est très dévot, ce n'est pas à plaindre, car elle ne produisait aucun fruit qu'une récréation qui n'est pas beaucoup à souhaiter à un chrétien. Nous en venons à mon point 3, le silence des dieux. Nous apprenons des hommes à parler et des dieux à nous taire, dit Plutarque. Alors, au palais du Luxembourg, siège du Sénat de France, aujourd'hui, à l'entrée de la salle des messagers d'État, une statue attire l'attention. Commandée pour Louis XVI à Jean-Philippe Mouchy, ce jeune homme nu porte un doigt sur ses lèvres. À l'entrée de la salle des séances du Sénat, nous avons le dieu du silence, qui garde le seuil de la haute assemblée. Son nom grec est Sigalion, et l'étymologie populaire que propose un érudit de la Renaissance pourrait sembler un mauvais esprit, ce n'est pas mon cas, fort approprié pour le Sénat de France. Venant, dit cet érudit, de Sigao, se taire, et Laos, le peuple, ce que l'on doit taire au peuple. Il porte aussi, c'est un mauvais esprit qui dit ça, il porte aussi un autre nom révélant son origine égyptienne, Harpocratès. Son histoire m'entraînerait dans de longs développements, tant sa fortune fut immense, en particulier à la Renaissance et au siècle suivant. Le secret fut en effet tenu pour la clé de toute action politique. Un article érudit de Laurent Bricot, paru en 2018 dans la revue Palace, fait l'inventaire des anamorphoses d'Harpocrate. Au royaume de France, le secret est un des atouts maîtres du pouvoir. Et le signum Harpocraticum, selon l'expression popularisée par André Chastel, connaît vite les faveurs d'une cour qui a parfaitement intégré la charge symbolique portée par l'image du jeune garçon intimement le silence. Arcana imperii, c'est ainsi que les maîtres nous gouvernent. Mais l'univers mythologique païen n'est pas le seul à révéler le silence. La tradition biblique, juive et chrétienne, en fit autant. L'Éternel se manifeste par la parole, mais aussi par le silence. Et c'est même sa plus subtile manifestation pour Élie sur l'Horeb. Un vent intense et violent ébranle les montagnes, premier livre des rois, et fracasse les rochers devant l'Éternel. Dans ce vent n'est point l'Éternel. Après le vent, un séisme. Dans le séisme, n'est point l'Éternel. Après le séisme, un feu. Mais le feu n'est point l'Éternel. Et après le feu, alors, je traduis provisoirement, une voix de fin silence. L'oxymore, kol, le son des mamas, d'un silence, d'arka, fin, subtil, a désespéré les traducteurs depuis les Grecs des Septante jusqu'aux Araméens des Targoumim, et a fait l'objet de deux récentes et savantes études. L'Éternel n'est pas le silence, mais c'est dans et par le silence que le prophète en fait la plus intime expérience rapprochée de celle de Jean de la Croix et des Upanishads. Sans doute, l'Éternel a parlé par le truchement des prophètes, mais les maîtres du Talmud nous apprennent, je cite, soit dans le Talmud de Babylone, Sanhérine, soit dans la Sota, après les derniers prophètes, Haggai, Zacharie et Malachi, l'Esprit quitta Israël et l'Éternel se tut. Cette divinisation du silence, si forte dans le Premier Testament, se retrouve dans le Second Testament et en particulier dans son dernier livre, celui de l'Apocalypse. À l'ouverture du septième sceau, je cite, « Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Alors, je ne peux que résumer les interprétations que 20 siècles d'exégèse ont données de ce passage. Ambroise, par exemple, comprend qu'il s'agissait de la nativité du Christ au cœur de la nuit et dans la Pax Romana, tandis qu'au contraire, Nicolas de Lyre et Pierre Auriol comprennent ce silence comme l'annonce de la persécution par Julien l'Apostat. D'autres, Aimon, Ansbert, y ont vu la brièveté de la contemplation que Dieu accorde aux saints pendant leur vie. Mais le sage exégète jésuite Cornelius à Lapide, ma source favorite, qui a commenté toute l'écriture, presque toute, au XVIIe siècle, a compilé toutes les interprétations antérieures. Il ramène ce silence à la seule louange qui convienne à Dieu. C'est le silence, dit-il, qui est la louange la plus adéquate. Et il cite, pour appuyer son hypothèse, le psaume 25, traduit par la Vulgate « Te decet hymnus Deus in Sion ». Mais, dit-il, cette traduction doit être corrigée par l'hébreu, comme l'ont montré les autres versions, « Aquila, la Vetus Latina », pour toi, le silence est une louange, ou encore Jérôme, à toi, une louange silencieuse. Dernier point, le silence des hommes ou l'anti-Babel. Un dernier point, et non le moindre, l'éloquence du silence est l'anti-Babel. Comme l'écrit René Barry, 1679, dans sa méthode pour bien prononcer un discours, la parole n'est entendue que de certaines gens, et le geste est entendu de toutes les nations. L'éloquence silencieuse est universelle. Dans ses Lectiones Antiquae, le docte Celius Rodiginus de Rovigo se livre un éloge de la main comme ce langage commun à tous les peuples. Alors, je reviendrai de nouveau à Lucien et à ce même danseur que Tiridate, roi d'Arménie, aurait demandé comme cadeau à Néron. Rabelais s'est souvenu de l'anecdote dans le tiers-livre en citant un auteur docte et élégant, c'est Lucien, qui parlait de, je cite, « ce joueur de farce, lequel il avait vu en théâtre, et, ne entendant ce qu'il disait, entendait ce qu'il exprimait par signes et gesticulations, alléguant que sous sa domination étaient peuples de divers langages, pour lesquels répondre et parler lui convenait user de plusieurs truchements. Il, seul, à tous, suffirait. » car en matière de signifier par geste, était tant excellent qu'il semblait parler des doigts. Cette éloquence, dont je crois avoir montré qu'elle satisfait à toutes les règles de la rhétorique, n'est pas seulement universelle et permet au muet de se faire entendre, elle rend aussi la communication possible chez les peuples sans langage, ce que Montaigne évoque dans l'Apologie pour Raymond Sebond. L'éloquence silencieuse, enfin, occupe une grande place chez Rabelais et mon cher et regretté ami Michael Screech y a consacré des pages essentielles, profondes, érudites, que je ne vais pas reprendre dans cette communication. La seule question, je n'ai retenu qu'un point, des commentaires entraînés par une question de droit, sur lesquels je pense écrire quelque chose, c'est la première du De Verborum Obligationibus, à savoir, est-ce qu'un sourd-muet lisant sur les lèvres peut stipuler ? Et ça pourrait occuper une communication entière, étant donné les commentaires qui ont été portés. Stipulatio non potest confici, nisi utroque loquente. Entre deux parties, il faut que chacun puisse parler. Et ideo, neque mutus, neque sordus, neque infans, stipulationem contraere possunt. Ni le muet, ni le sourd, ni l'infans ne peuvent contracter. Mais la question est disputée et occupe des volumes in folio. Bon. L'éloquence muette permet d'établir l'universalité des signes, l'identité du signifiant et du signifié. À la rupture du langage s'oppose une unité de sens, et c'est ce que Rabelais, comme l'a établi Michael Screech, conteste par un exemple burlesque, lorsque, dans Pantagruel, Panurge fit Quino, un grand clerc d'Angleterre. On sait que Maître Thomast, dans cette lecture muette, dans cette dispute muette, faisait des signes allégoriques qui renvoyaient à des propositions ésotériques et que l'élément comique provient des réponses obscènes de Panurge. L'éloquence muette est ici prise en défaut, alors que l'anglais pouvait prétendre transmettre par signes, par gestes, tout un discours, Panurge le comprend tout autrement. Et j'ajouterai que ces disputes muettes par gestes n'avaient rien d'exceptionnel et semblent avoir été pratiquées dans l'université médiévale. Dans son grand livre sur Rabelais, Michael Screech renvoie au savant commentaire d'Accurse, l'idole des jurisconsultes au XIIIe siècle, au début du De Origine Iuris. Avant l'envoi en Grèce des enquêteurs romains, qui fournirent la matière des 12 tables, les Grecs auraient pris les devants en envoyant un sage visiter les Romains pour voir s'ils étaient dignes de recevoir leurs lois. Bien avisés, sono furbi questi romani, bien avisés, les Romains donnèrent pour interlocuteur un sourd-muet, pensant que si ça ratait, on mettrait sur lui le ridicule de la défaite. Le grec, poursuit le savant glossateur, parla par geste et leva un doigt pour signifier qu'il y a un dieu au ciel. Le muet, croyant qu'il voulait lui crever un œil, lui répondit « Je t'en crèverai deux ». Le grec comprit « Il y a une trinité ». Il ouvrit alors la paume de sa main pour signifier que Dieu tient tout. L'autre, croyant qu'il allait lui donner une gifle, lui montre le poing. Et le grec comprend, oui, mais tout est retenu dans la main de Dieu. Et il retourne en Grèce, pensant que les Romains sont dignes de recevoir les lois. Je crois, quant à moi, avis partagé par Michael Screech, que Accurse est un plaisantin. Et le Screech pensait, je partage cette proposition, que les grands savants, qu'ils soient au collège ou à l'académie, ignorent parfois l'humour que les médiévaux peuvent mettre dans leurs propositions. Je pense qu'Accurse est de ces juristes qui s'amusaient beaucoup et que son histoire, répétée partout, n'a jamais été vraiment prise au sérieux par les sages jurisconsultes. Il a fallu que les philologues modernes puissent s'interroger là-dessus. Et je conclurai par une dernière citation que j'emprunte encore à Montaigne, lecteur du Tasse, et que je ne traduis pas. « Il s'élance encore suole avec prieghe et parole. » Je vous remercie.
Merci, cher Jean-Robert. Je crois qu'on n'a jamais parlé du silence avec autant d'éloquence, il me semble. Et vous avez là montré la preuve vivante que de ce que Nicolas de Cuse appelait la coincidentia oppositorum, la coïncidence des opposés. Il fallait bien que c'était à vous que devait revenir cet éloge du silence, et je crois que c'était tout à fait impressionnant, je pense, pour nous tous, et heureusement que vous n'êtes pas arrêté au geste et que vous avez joint au geste la parole elle-même dans laquelle vous êtes passé maître. Non, je crois que c'était cet exposé très, très éblouissant. C'est vrai qu'il y a eu tellement d'exemples proposés qu'on aimerait commenter chacun. J'ai été particulièrement impressionné par l'astuce laquelle vous avez commenté l'apothiopèse en faisant une prétérition, en disant je ne parlerai pas du quoi s'ego de Neptune, et ce faisant c'était une prétérition que voilà, donc c'était, et nommant pas la prétérition, c'était de ce point de vue là c'était tout à fait extrêmement subtil, et je crois que tout le monde ici, puisque tout le monde ici, en tant que nous sommes tous lecteurs, disciples de Marc Morelli, de cet âge de l'éloquence et de ce travail sur la rhétorique, il y a mais là aussi une sorte d'hommage en acte à la rhétorique. Et ça, je trouvais ça très très beau et très 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 approprié. Il y a plusieurs remarques qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. À propos du silence des dieux, par exemple. Alors peut-être là-dessus aussi, l'éloquence du silence. C'est quelque chose qui nous renvoie alors aussi à la modernité, et je dirais à la post-modernité. Je pense à l'art contemporain qui a beaucoup utilisé le silence dans les œuvres, à John Cage. Mm-hmm. Vous connaissez les 4 minutes 33 de silence de John Cage. Vous trouvez assez facilement en ligne, effectivement, c'est ce morceau de musique qui consiste à présenter un silence qui dure 4 minutes 33, je crois que c'est 33 secondes, mais il faudrait vérifier. Ça finit par 3, me semble-t-il.
4 ou 3.
Et en fait, on peut être plus ou moins éloquent à montrer ce silence. L'une des plus éloquentes interprétations de ce morceau silencieux de John Cage est faite par mon homonyme, William Marx, qui je crois qu'est l'un des fils d'un des Marx Brothers. Et il faut absolument regarder ça sur... YouTube, et on voit qu'il y a une éloquence du silence tout à fait possible, et vous l'avez dit de cette manière, par l'utilisation des gestes qui font qu'on peut être plus ou moins éloquent par ces gestes. Et cela nous rappelle au bout du compte que, et je crois que c'est une proposition très forte au bout du compte que vous nous avez faite, à savoir que vous nous avez rappelé ce faisant que la rhétorique n'est pas l'art de la parole. La rhétorique, c'est l'art de l'expression, de la communication et du commerce des esprits, en vérité. Et évidemment, dans la rhétorique, la parole joue un rôle fondamental, mais vous l'avez bien dit, en fait, en énumérant les différents aspects de la rhétorique qui ne sont pas de l'ordre de l'expression verbale, mais qui sont de l'ordre de l'actio, de l'élocutio, etc. En fait, nous avons montré qu'il y a, comme nous l'avait dit un peu du reste Lina Bolzoni ce matin, à savoir que dans la rhétorique, il y a tout un ensemble de facultés proprement humaines et qui font société, qui nous permettent de faire société, et on fait société non pas seulement par la parole, mais on le fait par tous les moyens qui sont à notre disposition, et évidemment, le silence en fait partie. Vous voulez peut-être réagir là-dessus
Juste, je voulais dire, c'est qu'en préparant cette communication, j'ai amassé une tonne de documents, donc ils vont sortir un bouquin. Bon. Mais j'ai été très rapide sur un certain nombre de choses. Alors, ce que vous dites, en particulier, j'ai tout un dossier sur la musique muette contemporaine. Et je pense que la phononymie, la main guidonienne, c'est ça le début. Le fait qu'en montant la main, on peut en silence faire une mélodie, puisque la main guidonienne, c'est le principe de la main guidonienne, c'est ça. Et donc je pense que cette idée qu'une mélodie puisse être en silence a conduit à la réflexion sur la musique muette. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, assurez-vous, je ne vais pas faire une seconde communication, mais la seconde communication, elle sera faite par Cousinier demain. C'est la muta eloquentia que je n'ai pas voulu aborder, qui est le silence des arts plastiques, qui est l'éloquence des arts plastiques.
Tout à fait. Et c'est ce qui nous renvoie à vraiment ce thème de la modernité, en fait, à partir du romantisme, qui est ce thème du silence qui aboutit à une sorte de sublime qui nous... Alors, il y a cette idée, il y a la beauté qui nous arrête, qui nous empêche de parler. Alors, c'est le sublime. Et puis, il y a toute la réflexion romantique qu'on a dans la poésie, en particulier, et sur les arts plastiques, à savoir que, au bout du compte, la plus belle poésie ou l'art le plus accompli est celui qui nous réduit au silence. Et parmi les textes les plus fameux là-dessus, il y a l'ode sur l'urne grecque de John Keats, parce que précisément ce qu'on voit dans cette ode sur l'urne grecque, qui est l'un des sonnets les plus célèbres de la poésie anglaise, où admirant un vase antique, Keats est frappé par le fait que ces musiciens jouent une musique que l'on n'entend pas, puisqu'ils sont représentés. Et donc, je crois que Keats dit quelque chose comme ça, les musiques que l'on n'entend pas sont les plus belles. Hein. Et c'est quelque chose que les musiciens eux-mêmes disent assez facilement, quand vous parlez avec des compositeurs, à savoir que quand on est soi-même musicien, on peut lire une partition et entendre la musique soi-même. Et au bout du compte, et on l'entend mieux quand on est ainsi, dans une lecture silencieuse, que dans l'interprétation.
Sans oublier que le touchet est un élément de la musique. Lorsqu'un instrument s'arrête, ça entre dans le corps de la mélodie. Quand un instrument, dans un orchestre, lorsque certains instruments s'arrêtent, ça appartient. Ce n'est pas un accident, il n'a pas cassé une corde. Mais il s'arrête de jouer ce qui appartient à la mélodie. Déjà, je pense que déjà, il y avait déjà cela présent dans la musique symphonique.
On pensait à la fameuse formule un peu trop galvaudée, cette fois-ci, le silence après du Mozart est encore du Mozart. Mais il y a quelque chose qui a été effectivement repris dans la modernité artistique. Mmh. Antoine, vous vouliez dire quelque chose, peut-être, me semble-t-il ? D'accord, non, je termine. Oui, il me semble qu'en fait, il y avait dans votre propos qui était basé quand même sur la culture antique et biblique, ce qui est normal. Et je pensais aussi pour le silence dans la Bible, au silence de Job face à l'Éternel.
Quand Job parle beaucoup. Hein.
Voilà, oui, mais Job parle beaucoup d'abord, mais quand l'Éternel prend la parole, à ce moment-là. L'Éternel ne cesse de lui poser des questions. As-tu vu ? Sais-tu ça ? Et Job ne peut que se taire. Et ce qui nous renvoie à cette dimension du silence mystique, en vérité, à laquelle vous avez fait allusion avec Harpocrate, à savoir le mystique est celui qui doit se taire. Mais ça nous renvoie à une théologie apophatique, donc basée sur
Harpocrate, Parmogate, oui.
Exactement. Mais et qui nous renvoie là encore, donc cet apophatisme, à quelque chose qui est très profondément ancré dans une bonne partie de la philosophie du XXe siècle. Et on pense au dernier mot du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire.
C'est précisément dans le cas de Wittgenstein, comme il a dit dans le cahier brun, c'est précisément l'essentiel. Ce dont on ne peut pas parler, c'est l'essentiel.
Et je trouve ça très beau d'ouvrir à tout cela. Antoine.
C'était un exposé très très stimulant, enfin, qui donne envie de continuer cette réflexion dans beaucoup de directions. J'aimerais bien entendre Mireille Huchon, je crois qu'elle est toujours là, pour nous parler de Rabelais, parce que l'une des réflexions que je me faisais en vous écoutant, c'est vraiment qu'il y a silence et silence. Et que Rabelais, ça fait beaucoup de bruit. La dispute par signe avec Thomas, ça fait du bruit, tous ces gestes. Et en revanche, il y a le silence mystique, le silence, la phrase fameuse qu'on cite partout de Wittgenstein. Cette nécessité d'aller vers le silence. Mais dans ce que vous avez évoqué, je me demande si cette rhétorique du geste fait véritablement partie du silence. Parce que toute la rhétorique du geste, c'est une rhétorique qui fait du bruit. Et en particulier dans votre seconde partie, quand vous y retrouvez les différentes parties de la rhétorique, on est du côté de ce que j'aurais tendance à ne pas appeler le silence, moi, pour conserver au silence cette valeur de la posiopèse, de là où il faut se taire. Quoi. Donc en essayant de dire qu'il y a tout un côté, alors, ce qui rejoint en revanche votre dernière partie sur l'anti-Babel. Quoi. Anti-Babel, c'est bien substituer à la parole d'autres communications qui ne soient pas affectées par la diversité des langues. Mais je dirais que l'anti-Babel, ce n'est pas le silence, c'est trouver autre chose. En revanche, il y a des endroits où ça se touche. La langue des anges, la communication angélique. Je me souviens de ce très bel article que j'avais commandé à mon ami Jean-Louis Chrétien, il y a des années, sur la communication des anges.
J'ai un petit livre qui sort au mois de juin sur les anges, ça veut-il compter sur le dialogue des anges.
Sur le dialogue des anges, bon, c'est un thème magnifique, hein, cette communication silencieuse des anges, qui communique mentalement, puisqu'ils sont dont les intentions sont transparentes les uns aux autres. Et là, on rejoint, au fond, les deux aspects que je sentais dans votre propos, à la fois une rhétorique qui ne passe pas par la parole, et en même temps, le silence mystique, spirituel, qui est celui des anges. C'est les anges, on a la réunion de ces deux dimensions, de ces deux fils que je sentais dans votre propos. Et Rabelais, évidemment, c'est pas tout à fait du côté du silence mystique ou métaphysique ou wittgensteinien, mais il y a des endroits où ça se rejoint. Bon, je disais les anges. Puis en ce moment-là, je suis en train de travailler sur Colette pour toute autre raison. Et alors, je pensais évidemment à ce que vous disiez sur la pantomime, grande actrice de pantomime qui était Colette. Et alors, une découverte que je faisais en travaillant sur Colette, c'était son intérêt pour le cinéma muet. Puisque les premiers acteurs du cinéma muet étaient formés par les pantomimes, par les mimes qui leur enseignaient comment justement toute une rhétorique avec toutes les parties, l'actio, etc., qui se passaient de la parole. Mais le cinéma muet, ce n'est pas non plus du silence, c'est trouver d'autres moyens de se substituer. Donc j'entendais ces deux fils, mais voilà, j'aurais aimé qu'on...
Alors merci beaucoup de ces remarques très suggestives. Pour les anges, je dirais juste ceci, que le problème... Pour les anges, le problème, c'est celui de la privacy. Ce que tous les commentateurs... ils se demandent, si des anges parlent entre eux, est-ce qu'un ange peut parler à un autre sans que les autres l'entendent ? C'est ce sur quoi j'ai écrit, voilà. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est comment faire pour que, si ces créatures sont tellement transparentes, qu'elles puissent parler l'une à l'autre sans que les autres puissent entendre. Alors, merci beaucoup. Une seule remarque, j'avais intitulé ce papier « L'art de se taire ». Parce que, précisément, l'eloquentia silenti a plusieurs dimensions. Et je suis très conscient que le développement que j'ai fait pour votre plaisir sur l'elocutio, que j'ai un peu étendu pour votre plaisir, n'est pas la seule forme, et qu'il y a toutes ces formes dont vous parliez, William et vous, Antoine, du silence. Voilà. Mais simplement, l'art de se taire... Bon, il y a tout un arc-en-ciel de toute forme de silence, et il est clair que la gestuelle est tout à fait différente du silence des Upanishads ou du silence d'Élie, enfin, ça c'est, ou de Job. Ouais. Job ne répond pas à Dieu comme Nasdokab répond à Panurge. Voilà. Mais je crois, en effet, vous avez parfaitement raison, il y a une grande richesse. C'est pour ça que j'ai prudemment intitulé ça, non pas Éloquence du silence, mais L'art de se taire, ce qui me permettait d'avoir, pour le plaisir du public, Rabelais. Voilà. Mais peut-être si Mme Michon est là, je vais vous entendre sur Rabelais.
Je voulais juste signaler que ce thème est repris, bien sûr, aussi au XIXe siècle et plus tard aussi de manière scientifique, parfois. Par exemple, il y a un livre très amusant d'Andrea Di Iorio, que vous connaissez peut-être, analyse la gestuelle des anciens dans la mimique napolitaine. Et c'est assez amusant de voir comment là, il y a un va-et-vient entre l'éloquence dans la peinture et l'éloquence gestuelle. Et il y a d'ailleurs aussi, plus tardivement, la reprise, il y a des personnes qui étudient vraiment la gestuelle dans la peinture et dans la statuaire, évidemment le Laocoon, mais beaucoup d'autres, et aussi la mimique, déjà dans un but didactique pour enseigner aux apprentis, aux acteurs, etc., mais aussi pour essayer de la codifier par écrit. Donc c'est un thème qui a passionné aussi les savants plus matérialistes de la fin du 19e.
Qui fait un lien, de reste, avec les communications de demain sur Poussin, où l'on sait qu'effectivement, la gestuelle est absolument importante.
Oui. Antoine m'invitait à prendre la parole sur Rabelais à propos des signes, et je voudrais juste signaler ce qui s'était passé en Sorbonne pour le colloque Rabelais que nous avions fait en 2014. Donc j'avais fait venir Benjamin Lazare et Olivier Martin-Salvant dans l'amphithéâtre Richelieu pour une lecture. Ils nous ont fait la lecture de l'épisode de Thomaste et de Panurge en demandant à l'assistance de faire les gestes. Et je puis vous dire que dans l'amphithéâtre Richelieu, les gestes qui ont été faits étaient des gestes d'une pure obscénité et que peut-être quand même, chez Rabelais, c'est plutôt ce qui prime et que peut-être ce qu'il faut mettre en avant chez lui, c'est la recherche du mot panonphé, peut-être.
Mais il me semble que l'intervention de Thomas est ésotérique, ça a un sens. Le discours de Thomas a tout à fait un sens.
Absolument, il peut y avoir une. Oui. Mais il y a également une satire de l'ésotérisme. De l'ésotérisme, et d'autre part, évidemment, la pluralité de sens possibles. Mais je voulais simplement mettre en avant ce caractère théâtral de la scène, et nous avions regretté que Marc Maroli ne puisse y assister. Comme j'ai regretté qu'il ne puisse venir, il l'avait souhaité que nous le voyions ensemble, la représentation du Rabelais de Barrault qui s'est faite il y a 3 ou 4 ans. Et je voudrais rappeler aussi là combien Marc Fumaroli, pour le théâtre, a une importance capitale dans ses chroniques.